9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon week-end. Le cours du Bitcoin s'est envolé à plus de 47 000 dollars, près de 40 000 euros, depuis que de plus en plus d'institutionnels et d'entreprises en achètent, le dernier en date étant Elon Musk pour 1,5 milliard. Je reçois ce matin l'économiste Philippe Erlin, spécialisé dans les crypto-monnaies. Il est avec moi dans ce studio. Bonjour Philippe. Et puis, hommage à Jean-Claude Carrière, qui nous a quittés lundi dernier. On lui doit le fameux Mahabharata, mis en scène par Peter Brook, et des dizaines de films comme Belle de jour, ou La piscine, Borsalino, Le voleur de Louis Malle, Viva Maria, Le tambour de Volker Schoendorf, Le retour de Martin Guerre. On va retrouver Jean-Claude Carrière bien vivant, quand je l'avais interviewé sur Europe 1 pour la première fois en 2009. Philippe Erlin, vous avez un doctorat en économie, vous vous êtes spécialisé dans les crypto-monnaies comme le Bitcoin, vous êtes l'auteur aux éditions Erol de La fin des banques, comment la technologie va changer votre argent et de J'achète du Bitcoin, un guide pratique pour miser sur les nouveaux placements. Le Bitcoin en effet est devenu un sacré placement. Depuis qu'Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, en a acheté pour 1,5 milliard de dollars, le cours, je l'ai dit, s'est envolé et une des plus anciennes banques américaines a annoncé qu'elle acceptait d'héberger les bitcoins de ses clients et même la Banque centrale du Kenya est en train de réfléchir avant d'acheter du bitcoin. Le bitcoin, ça a démarré en 2009, juste après la crise financière et à l'époque, on pouvait trouver ça farfelu.
Oui, c'était un pari parce que personne ne savait si ça allait vraiment marcher, même si c'était une idée qui était poursuivie depuis longtemps parmi les geeks, c'est-à-dire le fait de faire fonctionner une monnaie sur Internet qui soit décentralisée, c'est-à-dire sans qu'il y ait une banque centrale qui s'occupe de tous les comptes, parce qu'elle pourrait être soumise à une attaque informatique ou être rachetée par une entreprise, et ça, ils n'en voulaient pas. Donc, ils voulaient quelque chose de complètement décentralisé, où personne ne pourrait mettre la main dessus. Et ça a démarré en janvier 2009, et puis bon, finalement, ça marche très bien.
Alors, les institutionnels, pendant longtemps, ont combattu le Bitcoin, hein, en disant que ce n'était pas sérieux, que ça allait créer des bulles. On a entendu Christine Lagarde, encore récemment d'ailleurs, hein, la patronne de la Banque Centrale Européenne, dire que ça n'était pas une monnaie, par exemple.
Oui, mais enfin ça, bon, c'est vrai qu'une monnaie, normalement, c'est défini par l'État. Donc ça ne l'est pas, mais c'est aussi défini par les gens qui l'utilisent. Hein. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de pays émergents dans lesquels la monnaie subit de l'inflation. Les gens se mettent à utiliser Bitcoin parce que même si c'est volatile, ça vaut quand même quelque chose et plus que leur monnaie nationale. Donc les gens l'utilisent concrètement. Et puis l'autre décision d'Elon Musk avec Tesla, c'est pas seulement d'en acheter une partie, c'est aussi de dire que bientôt on pourra acheter sa Tesla en payant en Bitcoin. Donc, ça devient une monnaie de transaction, quoi qu'en pense Christine Lagarde.
Alors, chaque fois qu'on parle du Bitcoin, personne ne dit jamais où on peut en acheter ou où on peut en vendre. Comme si c'était tabou, comme si on ne voulait pas lui faire de publicité. Alors, nous, on va le dire. Où est-ce qu'on peut acheter du Bitcoin?
Alors, on ne peut pas en acheter dans sa banque. Hein, c'est pour ça que c'est un petit peu plus compliqué. Mais il faut quand même créer un compte sur des places de marché. Donc, il y a deux grandes places de marché françaises, Paymium et CoinHouse, anciennement la maison de Bitcoin, qui sont des plateformes tout à fait sérieuses. Et puis, il y a des grands acteurs internationaux qui sont installés en Europe, comme Coinbase et Kraken, qui sont des Américains, ou Binance. Et donc voilà, on crée un compte. C'est aussi rigoureux que quand on crée un compte bancaire, c'est-à-dire on doit transmettre sa carte d'identité, un justificatif de domicile. Ensuite, on fait un virement SEPA de son compte bancaire vers la place de marché. Et puis ensuite, donc ça prend quand même du temps. C'est des jours, hein, c'est des formalités. Et puis ensuite, on peut convertir ces euros en bitcoin ou d'autres crypto-monnaies. Voilà,
et pour n'importe quel prix, on n'est pas obligé d'acheter un bitcoin à 47 000 dollars, comme certains croient.
Heureusement, on n'est pas obligé de mettre 40 000 euros.
On peut mettre 400 euros si on veut en bitcoin et les revendre si l'on en a envie. On a beaucoup dit aussi que c'était la monnaie préférée des narcotrafiquants, que ça permettait de faire circuler des sommes en toute illégalité. C'est pas aussi vrai que ça. Hein.
Non, c'est pas vrai. Ça, c'est souvent un argument qui est utilisé par ceux qui n'aiment pas le bitcoin, notamment les dirigeants de banques centrales. Il faut savoir que le trafic illicite se fait dans les grandes banques et internationales, compagnons sur rue, qui ont subi plusieurs procès. Le Bitcoin, c'est justement comme ça marche de façon décentralisée sur une base de données partagée. Ça veut dire qu'on laisse des traces ad vitam aeternam. Mais quand on fait des trafics illicites, on n'a pas envie de laisser des traces qui peuvent être secrètes pendant un moment. Mais quand on va quitter justement l'écosystème Bitcoin pour convertir ces Bitcoins en euros ou pour acheter un produit, à ce moment-là, on peut relier une personne déterminée avec un compte Bitcoin Et si cette personne a fait des trafics illicites, eh ben, on pourra remonter toutes ces transactions en allant regarder la blockchain. Donc, ce n'est pas du tout une bonne idée de faire des trafics illicites.
C'est vraiment la pire
illicites.
Monnaie pour faire, voilà, pour faire des transactions illicites. Alors, elle a un défaut, mais les spéculateurs peuvent trouver que c'est une qualité, c'est que c'est une monnaie, enfin, c'est une valeur très volatile. Elle a quadruplé en 2020. Fin décembre, elle a chuté de 20%. Voilà, ça bouge beaucoup. Et c'est pas toujours pourquoi ça bouge.
Alors, c'est pas toujours pourquoi ça bouge beaucoup, parce qu'aujourd'hui, le Bitcoin, en fait, finalement, ça pèse, on en parle beaucoup, mais ça pèse assez peu, ça pèse à peu près 800 milliards de dollars. Et à l'échelle de la planète de la finance, quand on regarde les marchés boursiers, le marché obligataire, tout ça, le marché de l'or, c'est 10 000 milliards de dollars. C'est tout petit, le Bitcoin. Donc, quand tout d'un coup, il y a des entreprises ou des particuliers qui se disent, avec un peu un effet de mode, tout d'un coup, bah, je vais en acheter, bah, le cours explose. Et puis, quand des gens décident de le quitter, le cours chute. Voilà, c'est un peu la règle du jeu. Il faut le savoir si on investit dans le Bitcoin. Il faut avoir le cœur bien accroché, quoi.
Alors, ça permet néanmoins de faire une grosse économie sur les millions de transactions qui s'effectuent par jour. Et le Bitcoin, hein, c'est plus économique, il y a moins de frais.
Oui, oui, c'est-à-dire, ça a été fait pour ça, pour pouvoir transférer de l'argent d'un bout à l'autre de la planète pour des frais extrêmement faibles. Et ça marche et ça donne de très bons résultats.
Quand vous écriviez la fin des banques, Philippe Erlin, en quoi est-ce que les crypto-monnaies, parce qu'il n'y a pas que le Bitcoin, il y en a d'autres, menacent les banques?
Oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Bitcoin, ce n'est pas uniquement une monnaie qu'on achète en espérant gagner de l'argent. La blockchain qui permet de faire fonctionner ces crypto-monnaies, le Bitcoin et puis d'autres, Ethereum, qui est la deuxième, qui est aussi très importante, ça permet de construire des services financiers. On peut construire des marchés boursiers, on peut construire des systèmes d'assurance, on peut construire des systèmes de crédit, de prêt d'argent. Et on peut recréer tout un monde financier. Mais la différence par rapport au monde actuel, c'est que ce n'est pas opaque. Voilà, c'est-à-dire que quand vous créez un service financier, c'est open source, comme on dit en informatique, c'est-à-dire que le code est transparent. Quand vous êtes informaticien, vous pouvez lire le code et comprendre exactement comment ça fonctionne. Donc, il n'y a pas de choses cachées, il n'y a pas de frais cachés. Tous les frais sont exactement clairement définis et présentés. Donc ça, c'est un avantage par rapport à la banque actuelle où on a souvent affaire à des boîtes noires et on ne comprend pas forcément tout ce qui se passe, sauf au jour où il y a une crise et puis on se rend compte qu'il y a plusieurs banques en faillite, comme en 2008. Bon, voilà quoi. Donc,
c'est pour ça que c'est né en 2009, juste après la crise financière, voilà, en réaction, il ne faut pas l'oublier, et que ça a été une révolution qui continue et dont on continue de parler avec Philippe Erlin juste après ça.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Tadéhi.
Nous sommes toujours avec Philippe Erlin, le spécialiste des crypto-monnaies. Il faut bien dire, Philippe, qu'une monnaie comme le Bitcoin en Europe, aux États-Unis, c'est surtout une valeur de placement. Hein. On n'a pas d'inflation, donc...
Oui, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Donc c'est comme placement. Il y a certains magasins dans lesquels on peut payer avec, mais il n'y a pas tellement d'intérêt. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est plutôt dans les pays où la monnaie subit de l'inflation, que le fait de basculer une partie de ses transactions sur le Bitcoin, là, ça prend tout à fait son sens. Quoi.
En Afrique, au Nigeria notamment.
Voilà, et Amérique du Sud, voilà, il y a plusieurs pays, Venezuela, Argentine, où on utilise concrètement le Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies dans les transactions de tous les jours.
Alors, on a appris qu'Amazon allait lancer sa propre monnaie digitale au Mexique d'abord, et puis en Amérique du Sud, et puis un jour ou l'autre, ça arrivera jusqu'à chez nous. Quel est l'intérêt pour une grosse entreprise comme Amazon ou Facebook, qui avec le Libra, c'est quoi l'intérêt de ces entreprises?
Alors, pour Amazon, on ne sait pas encore exactement ce que ça va être, mais pour Facebook, la volonté pour Libra, enfin, qui devrait changer de nom pour s'appeler Diem d'ailleurs, mais bon, c'est différent, c'est ce qu'on appelle un stablecoin, c'est-à-dire un Libra égale un euro, quoi qu'il arrive. Il y en a déjà la troisième crypto-monnaie en termes de volume, c'est le Tether, et un Tether égale un dollar, quoi qu'il arrive. Donc ça permet aussi de se protéger de la volatilité. Si on a des bitcoins et qu'on veut un peu se mettre à l'écart, on bascule sur le Tether, et bientôt on pourra basculer sur Libra. Et l'intérêt de Libra pour Facebook, c'est d'avoir une monnaie pour sa communauté qui puisse circuler entre individus ou sur des sites de commerce et sans payer des frais aux banques et de façon plus rapide, parce que pour les banques, si vous faites un virement à quelqu'un, ça prend au moins un jour. Alors si vous payez par carte bancaire, c'est rapide, mais pour payer à un ami, c'est plus compliqué. Pour faire un virement à un ami, on passe par le, ça prend au moins un jour souvent, bon, même s'il y a des services comme Lydia qui permettent de faire ça rapidement. Voilà, donc c'est un intérêt d'avoir une monnaie pour l'écosystème Facebook. Voilà, de cette façon-là. Alors Amazon Coin, on ne sait pas encore quelle nature ce sera, mais A priori, ce serait la même
pour
chose.
Pour Amazon, on peut imaginer que là encore, il s'agit de faire une grosse économie sur les dizaines de millions de transactions qui s'effectuent. Et puis, c'est un bon moyen de garder ses clients aussi. Hein. Mais tout ça, au fond, ça fait la concurrence des banques.
Oui, c'est pour ça que les dirigeants de banques centrales vouent aux gémonies le Bitcoin en l'accusant de tous les maux, comme on le disait tout à l'heure, sur les trafics de drogue et tout ça. Donc concrètement, on voit que les études montrent que c'est complètement marginal. Oui, parce que ça concurrence, et les banques centrales, les États n'aiment pas la concurrence. Voilà. Donc moi, je dirais que c'est raison de plus pour s'intéresser. Quoi. Voilà.
En plus, on imagine qu'Amazon, c'est des dizaines, des centaines de millions de cash. Donc effectivement, c'est la possibilité de faire des prêts. Au fond, et dès l'instant ils feront des prêts, ils créeront de la monnaie.
Oui, alors ça, on verra comment ça sera mis en place, mais ils concurrenceront les banques, c'est sûr. Et puis cette partie-là bancaire ne sera pas forcément directement couverte et contrôlée par la banque centrale. Donc c'est une partie qui va échapper, voilà.
Et là aussi, si ils arrivent à créer de la monnaie, ils vont entrer en concurrence avec les États.
Oui, aussi, voilà, tout à fait. Et surtout que les États, bon, mais pourquoi cette concurrence vient? C'est aussi la question qu'il faut se poser. C'est peut-être parce que les monnaies actuelles sont mal gérées. Le dollar et l'euro, on voit que la quantité d'euros et de dollars qui sont imprimés par la Banque centrale, c'est-à-dire pour financer les déficits budgétaires massifs suite à la crise du Covid, bon, ça atteint, la planche à billets fonctionne à un niveau jamais vu, quoi. Et donc, on est dans une situation où la quantité d'euros et de dollars augmente dans des proportions incroyables, alors que la quantité de biens et services, eux, augmente nettement moins. Et ça, on sait, quand on regarde l'histoire, qu'un jour ou l'autre, ça se transforme en inflation. Alors, il n'y a pas d'inflation encore aujourd'hui, quand on regarde l'indice d'inflation de l'INSEE, mais quand on regarde le logement, les gens se rendent compte qu'il y a beaucoup d'inflation quand ils achètent leur logement. Donc, il y a déjà un peu d'inflation ici ou là, sur un certain nombre d'actifs, pas encore dans les biens de consommation. Mais si un jour, ça se met à déraper sur les biens de consommation, on risque d'avoir vraiment un mouvement vers les crypto-monnaies. Voilà. Donc, c'est aussi parce que les grandes monnaies sont mal gérées que toutes ces crypto-monnaies apparaissent.
Oui, j'allais vous dire, est-ce que ça n'est pas pour cette raison qu'Elon Musk, par exemple, de façon très spectaculaire, achète du Bitcoin? Est-ce que ce n'est pas une manière de dire aux États, attention, j'ai peur de l'inflation, je me rabats sur le Bitcoin et beaucoup le suivent en ce moment même?
Tout à fait, c'est ça. C'est l'argument qu'ont donné, alors pas Elon Musk, mais d'autres qui avaient investi, comme le patron de MicroStrategy, qui est la première grosse société américaine au printemps à avoir investi dans le Bitcoin. Il disait... Moi, je crains l'inflation, donc je mets une partie de ma trésorerie en Bitcoin, parce que le Bitcoin, il faut le savoir, la quantité sera limitée à 21 millions, quoi qu'il arrive. Là, on est aujourd'hui à 18 millions et demi de Bitcoin en circulation. Ça ne dépassera pas 21 millions, donc il n'y aura jamais de planche à billets dans le Bitcoin. C'est une ressource rare. Alors, c'est un peu comme l'or, c'est pour ça qu'on dit que c'est l'or numérique. L'or, on en trouve à peu près 2 ou 3 000 tonnes par an, mais par rapport à la quantité existante, c'est très peu. Et on ne peut pas fabriquer de l'or comme ça ex nihilo, et on ne pourra jamais fabriquer de Bitcoin ex nihilo. Donc, c'est vraiment une protection contre l'inflation qui est le gros risque en train d'arriver auquel beaucoup de gens pensent en ce moment.
Mais comment peut-on être sûr qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin, étant donné qu'on ne sait pas qui a créé le Bitcoin, que tout ça est entouré d'un certain mystère, alors, qu'il n'y a pas une autorité centrale qui le décide? Alors, comment peut-on en être sûr? Car on en est sûr.
Oui, on en est sûr, mais on ne sait pas qui l'a créé, mais à la limite, ce n'est pas grave, parce que le code qui fait fonctionner le Bitcoin, lui, il est parfaitement transparent, n'importe quel informaticien peut le lire, donc il n'y a pas de choses cachées. Et la limitation de 21 millions, pour la remettre en cause, il faudrait que l'ensemble des mineurs, c'est-à-dire ceux qui valident les transactions, décident de changer le code. Donc là, ce serait déjà extrêmement difficile de réunir de la puissance suffisante pour dépasser les 51% de la capacité de minage du Bitcoin. Et puis, s'ils faisaient ça, ils se tireraient une balle dans le pied, parce que s'ils décident d'augmenter le nombre de Bitcoin, la valeur de leur Bitcoin va immédiatement chuter. Donc ce serait... Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a vraiment très peu de chances que ça se produise.
Quoi. Dernière question, Philippe Erlin. Les États, est-ce qu'ils vont laisser les entreprises privatiser, les entreprises et les individus, privatiser la monnaie?
C'est peut-être un peu tard maintenant, quoi, voilà, pour réagir, parce qu'il fallait qu'ils se réveillent avant. La meilleure façon de faire ça, c'est de mieux gérer leur propre monnaie, quoi, voilà. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, parce que si on continue dans la planche à billets dans laquelle on est aujourd'hui, c'est sûr que de plus en plus d'entreprises vont aller vers ces monnaies-là pour se protéger. Voilà. Et puis ensuite, ce ne sera pas seulement une protection, ce sera une monnaie de transaction. C'est-à-dire, il y a des entreprises qui ont aussi dit, qu'on pourrait utiliser Bitcoin comme monnaie de transaction. Il y a certains salariés, le patron, le directeur financier de Twitter a dit que certains salariés aimeraient qu'une partie de leur salaire soit versée en Bitcoin.
Bah oui, donc, vu que ça monte.
donc ça touche à peu près tout le monde. Et les fournisseurs aussi pourraient être payés en Bitcoin. Donc.
Merci Philippe Perlin. J'achète du Bitcoin, un guide pratique pour miser sur les nouveaux placements, c'est chez Erol, mais je crois qu'une nouvelle version va sortir en septembre, il faut dire. Il faut l'actualiser, évidemment. On se retrouve dans un instant avec Jean-Claude Carrière, bien vivant.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
Jean-Claude Carrière, vous intéressez davantage aux religions qu'à la politique, bien que vous soyez athée. Vous êtes toujours intéressé au surréalisme, on en reparlera en parlant de Louise Buñuel, au mysticisme, vous croyez au mystère. Pour vous, le monde n'est pas fini, dirait-on.
Non, regardez les hommes changer, le monde aussi. Oui, le monde n'est pas fini, l'idée que le monde est fini serait une catastrophe, c'est-à-dire s'il fallait laisser le monde dans l'état où il est, où nous le voyons aujourd'hui, non, on espère...
Non mais j'entendais, le monde n'est pas fini, c'est qu'il y a des mystères qui nous dépassent, il y a des choses qui se produisent...
Tous les scientifiques le disent, enfin, aucun scientifique n'oserait dire qu'il sait tout dans son domaine, au contraire. Une des grandes entreprises de la science aujourd'hui est de définir ce qu'on ne sait pas, ce qui reste encore à découvrir, et c'est immense. Car plus on en découvre, moins on en sait, et tout au moins plus on voit qu'il y a encore beaucoup à découvrir. Alors ça, c'est l'inconnu, c'est peut-être pas le mystère. Le mystère, c'est un mot mystérieux. C'est un mot plein de secrets dont je n'ai jamais très bien su ce qu'il veut dire. Il a un sens dans la religion chrétienne. Le mystère est ce que l'esprit doit accepter, bien que ce soit inacceptable. Par exemple, que Dieu est un et trois. Ça, pour notre logique du tiers exclu, c'est tout à fait inconcevable. Mais pourtant, le dogme dit cela. Il y a un Dieu en trois personnes. Donc nous devons accepter...
Le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit. Nous devons accepter ce qui est inacceptable. Nous devons accepter que Jésus est Dieu et homme. Il n'est pas un Dieu transformé ou déguisé en homme. Il n'est pas non plus un homme visité ou inspiré par Dieu. Il est les deux en même temps. Ce qui, pour l'esprit, est très difficile. Ça, c'est le vrai mystère. C'est le mystère théologique. Ça me fascine parce que c'est une dimension de l'esprit humain qui rejoint, vous le disiez, le surréalisme, c'est-à-dire l'abolition des contraires. Le moment où, pour reprendre une phrase célèbre d'André Breton dans le deuxième manifeste du surréalisme, où le blanc et le noir, le juste et l'injuste, le communicable et l'incommunicable, cessent d'être perçu contradictoirement. Voyez, où le monde n'est plus ceci ou cela, où il est ceci et cela. Ça, c'est la chose la plus difficile pour notre esprit à admettre. Voyez, de recevoir le monde dans sa complexité, dans sa contradiction, et c'est là où les scientifiques nous aident beaucoup. Car on vous démontrera, par exemple, les physiciens vous démontreront que dans une expérience qu'on appelle celle des fentes de Jung, du nom de scientifique qui l'a découvert, un photon, une particule de la lumière, qui est insécable, comme il dit, c'est-à-dire c'est le plus petit concevable, on ne peut pas le partager. Dans cette expérience-là, il passe en même temps par deux trous. Alors voilà, ça il faut l'admettre, c'est un peu le mystère théologique, mais dans le domaine scientifique.
Vous êtes sensible.
C'est ça que j'adore, ça, oui.
Bien vous êtes
parce
sensible.
Que ça, mais l'esprit en défi.
Également, Jean-Claude Carrière, pas seulement au mystère, mais aussi au merveilleux. Est-ce que vous faites différence
bien
entre le mystère et le merveilleux?
Si nous étions privés de merveilleux, de fantastique, d'imaginaire, nous ne serions plus que la moitié de nous-mêmes, peut-être même pas. Nous sommes des créatures faites de réalité, il en faut, et d'irréalité. Nous sommes tous possédés par quelque chose qui n'est pas tangible, qui n'est pas réel, qui n'est pas vérifiable, qui n'est pas répétitif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas reproduire. Mais heureusement qu'il y a dans notre monde des fées, des sorciers, qu'il y a en nous quelque chose d'enfant.
Mais alors, en dépit du fait que vous avez passé tant de temps à travailler sur les religions, que ce soit la religion chrétienne, la religion musulmane,
hindouiste,
évidemment,
bouddhiste.
Sur le bouddhisme, vous ne croyez pas en Dieu. Est-ce que, en dépit de votre fascination pour le merveilleux, vous ne croyez pas aux fantômes?
Non, je crois qu'on ne peut s'intéresser aux religions que si on ne croit pas en Dieu. Si vous voulez, ça, c'est si à partir du moment où on adhère à une religion, on ne s'intéresse plus aux autres. On a trouvé sa petite parcelle de vérité, on est là, bien campé, donc les autres sont dans le domaine des ténèbres et de l'erreur. Non, c'est pas du tout ça. Moi, je considère que contrairement à ce que disait Sartre, par exemple, mais d'accord avec ce que disait Camus, que la religion fait partie de nous. Notre tendance au religieux, qui rejoint cette tendance au merveilleux de laquelle vous parliez, fait partie de nous, nous ne pouvons pas nous en priver. Et c'est absolument passionnant de voir ce que dans ce domaine-là, nous avons inventé. C'est tout à fait extraordinaire. Donc par exemple, vous me dites que vous ne croyez pas en Dieu, pourtant vous vous intéressez aux religions. Si je voulais lire une histoire impartiale et complète du parti communiste bolchevique russe au début du XXe siècle. Je ne m'adresserai pas à un historien communiste. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut absolument se mettre en dehors si on veut avoir une vue aussi large, aussi calme et aussi claire que possible.
Et alors, du côté du merveilleux, y croyez-vous au merveilleux ou là aussi vous restez à l'extérieur et vous le contemplez comme une pure création de l'homme?
Non, c'est une pure création de l'homme, mais en ce sens, j'y crois. Je crois à la réalité de nos créations, bien entendu. C'est que serions-nous? Les faits n'existeraient pas sans nous. Elles n'ont pas une existence en dehors du fait que nous les avons imaginés, que nous avons raconté leurs contes.
Jean-Claude Carrière, on vous imagine. Moi, je vous imaginerais bien vivre dans un cloître, dans un monastère.
Ah non, pas moi, non, j'aime pas les monastères.
En revanche, on m'a dit que vous vivez dans un bordel, en fait.
Oui, je vis dans un ancien bordel, c'est vrai qu'il est assez bordélique encore aujourd'hui.
Non, mais une ancienne maison close, à Pigalle, en plus.
C'est une maison close et une maison de jeu. Elles étaient les deux à la fois, alors c'est encore pire.
À quelle époque était-elle encore
vivante? Jusqu'en 1931. Ça a été le cercle Massé, c'est ainsi qu'il s'appelait, il est connu, il a été fréquenté par les meilleurs personnages. Stefan Zweig y a habité, etc. Toulouse-Lautrec y a travaillé, donc c'est un endroit connu dans la vie parisienne d'autrefois et plein de fantômes charmants avec lesquels je...
Mais sentez-vous leur présence, et
oui,
pas seulement
oui.
celle de ces hommes, mais aussi
oui,
des femmes qui y travaillaient.
Je les sens, mais entendons-nous, ils ne sont pas là. C'est moi qui les sens. Il faut surtout pas confondre, et c'est une des grandes tendances de l'esprit humain, c'est de croire à la réalité de ses inventions. Et il imagine quelque chose, un autre monde, d'autres créatures, d'autres dimensions, et à partir d'un certain nombre de générations, ces croyances s'étant transmises, on croit à la réalité de ce que nous avons autrefois inventé. Ça, c'est absolument passionnant aussi, comme dimension de notre esprit.
Vous pensez à ces hommes célèbres, ces écrivains ou ces peintres qui sont venus au Cercle Massé. Pensez-vous aux femmes qui y ont travaillé?
J'y pense, oui, j'y pense quelquefois avec gaieté, quelquefois avec tristesse. Mais je dois dire que dans ce cas-là, c'était un endroit d'un certain luxe, d'un certain niveau. Et les dames étaient, je crois, très bien traitées, d'après ce qu'on m'en a dit. J'ai connu un producteur de cinéma, M. Mnouchkine, pour le
très
citer,
grand producteur
pas,
de cinéma.
Producteur, le père d'Ariane, qui m'a avoué avoir fréquenté cette maison à la fin des années 20, mais il m'a dit j'étais un jeune guide pour des touristes. Je peux en douter, mais c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que c'était une très bonne maison. Il me l'a confirmé.
Quel conteur, hein, Jean-Claude Carrière. Il revient dans 2 minutes 20.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Jean-Claude Carrière, on sait que vous êtes très lié au Tibet, que vous avez écrit un livre avec le Dalai Lama, c'était en 1994. Alors, est-ce que c'est une légende? On dit qu'à 6 ans, vous avez demandé à votre mère de vous acheter un petit Bouddha pour mettre dans la crèche. Si j'ai bien compté, c'était en 1937, les petits Bouddhas ne devaient pas courir les magasins dans l'Hérault où vous habitiez à l'époque.
Non, si c'est une légende, c'est ma mère qui l'a inventée. Moi, j'avais oublié et c'est elle qui me l'a raconté. Et comme le Bouddha est toujours dans la maison... Dans cette maison où je vais toujours, je l'ai encore vu pour Noël. D'ailleurs, il s'est parti encore de la fête. Et je crois que c'est absolument vrai. J'avais dû trouver le nom de Bouddha dans, vous savez, un recueil de contes pour enfants, de contes indiens pour enfants. Ça m'avait frappé. Et je vois d'ailleurs, j'ai une fille qui a 6 ans et qui a vu un DVD de la vie du Bouddha. Et elle est fascinée également par ce personnage. Alors, quand ma mère m'a demandé qu'est-ce qu'on met dans la crèche, la fameuse crèche où on met des santons, etc., le bœuf, l'âne, l'enfant Jésus, les bergers, j'ai demandé un Bouddha. Ma mère n'avait aucune idée de qui c'était. Elle est allée demander au curé du village qui lui a dit « Oui, je crois que c'est un philosophe chinois. » Alors que bon, c'est un prince indien, mais peu importe, ou népalais. Elle est allée, en effet, comme vous le disiez, au bazar, ou aux nouvelles galeries, je crois, de Bédarieux, de la ville de Bédarieux, une petite ville à côté de chef-lieu de canton, et elle a trouvé un Bouddha.
Elle
l'a trouvé, assez haut, de 30-35 centimètres. Je pense qu'aujourd'hui, on n'en trouverait plus. Et elle l'a mis dans la crèche, mais comme il était énorme par rapport au santon, elle avait l'impression, vous savez, espèce de gigantesque extraterrestre qui écrasait les malheureux bergers. Alors quand les gens venaient nous voir, on l'enlevait quand même, pour ne pas avoir à expliquer. Mais le Bouddha figurait couvert de neige, c'est-à-dire de farine, qui représentait la neige dans notre crèche. Je l'ai raconté au Dalai Lama par la suite. Il en a beaucoup ri. Oui. Je l'ai encore revu cet été puisqu'il est venu.
Le Dalai Lama rit de tout. J'ai eu la chance de le croiser peu de temps, mais j'ai pu lui parler et il riait tout le temps.
Il y a en lui un petit garçon qui a envie de rire de tout, qui attend toute occasion de rire. C'était tout à fait surprenant.
Puisque vous parlez du Dalai Lama, comment est-il parce que moi je l'ai vu en représentation, comme beaucoup de gens, même si nous étions seuls. Vous l'avez côtoyé, vous avez vécu avec lui, vous avez travaillé avec lui. Comment est-il le Dalai Lama au jour le jour?
Je l'ai vu encore cet été à Roquedondes, où il est venu, d'ailleurs à 25 km de chez moi, pour l'inauguration d'un grand, très beau centre bouddhique. Écoutez, c'est très difficile à dire parce que de tous les chefs d'État ou hommes importants, entre guillemets, que j'ai rencontrés, ce qui est très frappant chez lui, c'est qu'il ne parle jamais de lui. C'est-à-dire, il n'a aucune possession, il ne défend rien de personnel. Mais à la limite, lui demander comment il va n'a aucun sens.
Il est désincarné?
Il est désincarné, il représente son peuple et uniquement son peuple. Donc, quand le premier mot qu'il emploie toujours, c'est « substantially ». Alors, en substance, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors, bien sûr, par la suite, il peut bavarder comme n'importe lequel d'entre nous. Une fois, d'ailleurs, on passait ensemble dans l'émission de Kavada, vous savez, à la télévision. Et il y avait une voix, on parlait anglais, et il y avait une voix off qui traduisait ce qu'il disait. Et à un moment donné, répondant à une de mes questions, il a dit « I have sexual dreams », j'ai des rêves sexuels. Le traducteur n'a pas osé traduire et a traduit « j'ai des rêves sensuels ». Il a changé le mot. Mais il m'a dit carrément, comme ça, à la télé, « oui, j'ai des rêves sexuels ».
Et qu'est-ce qu'il mange le Dalai Lama quand on passe la journée avec lui, parce que vous étiez en vacances, je peux vous le dire,
il se lève à 3h du matin. Il a 3 heures de méditation quotidienne et solitaire. Ensuite, il prend un petit déjeuner composé de thé, de fromage, de lait caillé, de trait tibétain. Ensuite, il mange à midi, fait un repas végétarien, mais pas toujours végétarien, car au Tibet, il est très difficile d'être végétarien, car il n'y a pas assez de légumes. Donc, pendant toute son enfance, sa jeunesse, il a mangé de la viande. Arrivé en Inde, il a décidé d'essayer d'être végétarien. Il a raconté lui-même dans ses mémoires, ça a été difficile. Donc, de temps en temps, il peut manger un morceau de poulet ou de poisson. Et c'est fini. Le soir, il boit un thé avec un petit biscuit, c'est tout.
Jamais vous ne l'avez vu boire de l'alcool, par exemple.
Non, jamais.
Vous êtes vous
ni,
fils
ni de... caresser une femme, ni mais, sinon du regard, car il aime beaucoup la présence féminine. Je suis allé quand j'ai travaillé. Avec lui, j'étais avec ma femme, Alta Jadot, qui est une historienne spécialiste de la religion iranienne, qui m'a beaucoup aidé, et il l'embrassait, il la prenait dans ses bras, sans aucun problème. Non, c'est un homme qui est, comme vous disiez, qui cherche toute occasion de rire, qui est de très bonne humeur, qui installe un vrai bien-être autour de soi, et en même temps, de temps en temps, il vous regarde comme un maître zen, c'est-à-dire son visage se fixe, se ferme, devient très, très pénétrant quand il a quelque chose à dire que vous voulez, qu'il veut que vous vous rappeliez. Non, c'est un personnage très... Moi, je l'aime énormément. Il a réussi quand même à préserver le peuple tibétain depuis 50 ans de tout acte terroriste. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Si un jour, aujourd'hui ou demain, un ou deux policiers chinois sont abattus par des Tibétains, ça n'est fini du Tibet, tout simplement. Le mot lui-même sera interdit. La langue, les écoles seront totalement fermées, etc. Il le sait, c'est là où son combat est très dur à mener, il en est très conscient, et cet été d'ailleurs, quand je l'ai vu, nous avons un autre projet ensemble, un projet d'un film que j'espère nous mènerons à bien, qui serait une histoire des Dalai Lama, faite sous forme d'un docu-fiction. Avec
parce qu'à
lui,
chaque fois, ils sont la réincarnation du précédent.
Oui, mais avec lui, comme ça, il n'en est pas tout à fait sûr.
Ah bon?
Non. C'est la théorie, mais là-dessus, il est aussi très souple. Et il serait, lui, le narrateur central de ce film. Et c'est-à-dire, je dois dire que cet été, je l'ai trouvé un tout petit peu plus triste que d'habitude. Peut-être aussi parce qu'il a pris quelques années. Oui. C'était après ce que l'on sait.
Jean-Claude Carrière, vous êtes fils de viticulteur, vous êtes né dans l'Hérault, de cette maison natale dont vous nous parliez tout à l'heure. Je crois d'ailleurs...
Je reviens sans cesse.
Vous revenez sans cesse et que votre tombe est prête.
Oui, moi je vais la voir de temps en temps, la mettre en état, oui. Il y a déjà des membres de ma famille dedans, ma place est là, bien sûr. Et Guy Bechtel, mon ami écrivain qui est venu s'installer chez moi, a préparé sa tombe à côté de la mienne. Alors il y a Bechtel et Carrière frères qui seront unis aussi par-delà la mort.
C'est, tout ça est symbolique pour vous, puisque vous ne croyez pas à la...
C'est symbolique, non, c'est si on... Ce que je dis toujours, si vous aimez la mort, profitez-en tant que vous êtes vivant. Hein, c'est-à-dire, si la mort vous attire, s'il y a quelque chose dans les défunts, les ancêtres, tu vois, occupez-vous d'eux tandis que vous êtes là. Après, il y a beaucoup de chances que ce soit trop tard.
Vous avez parlé l'occitan jusqu'à l'âge de 13 ans.
J'étais bilingue, oui.
Et vous avez connu, alors, ce qui pour la plupart des gens est un mot, mais vous, je crois, vous l'avez connu, c'est l'exode rural.
Oui.
C'est-à-dire, vous êtes vraiment...
Moi, je suis né en 31, donc j'avais 20 ans en 51, et j'ai vu, tout de suite après la guerre, à partir des années 47-48, jusqu'à la fin des années 50, c'est ça le grand exode rural. Sur 10 garçons de mon âge dans le village, 8 sont partis. 8, non, tout simplement ne pouvaient plus vivre des petites parcelles de terre que nous possédions ou que possédaient
alors
nous,
vous auriez
nos,
aimé,
nos familles.
Vous auriez aimé que ce soit pouvoir
moi,
rester.
Moi, je fais partie vraiment de cette génération qui a été élevée dans une culture très particulière, celle de la petite paysannerie. Et encore aujourd'hui, je sais tout faire de mes mains. Donc, quand je vais là-bas, je travaille comme un paysan.
Vous savez labourer, vous savez traire.
Vous savez labourer, traire, greffer, etc. Mais élevé dans une culture, j'ai vécu dans une autre. Ça, c'est le grand changement. Et la plupart de mes amis, que je revois maintenant parce qu'ils sont à la retraite, donc je les revois là-bas, de mon âge, ont travaillé qui dans les chemins de fer, qui à la poste, qui infirmier, etc., ou infirmière, mais tous sont partis. Il n'y a plus aujourd'hui un seul pied de vigne dans ce village qui en vivait.
L'exode rural tel que vous l'avez vécu, Jean-Claude Carrière, est-ce que ça s'apparente à une vague d'immigration comme on a pu en voir de successifs, c'est-à-dire on quitte une culture pour se retrouver dans une autre.
Même au niveau de la langue, c'est-à-dire que quand je suis arrivé à Paris, mon accent du Midi me nuisait beaucoup. On s'est beaucoup, beaucoup moqué de moi. Je me rappelle arrivant au lycée Voltaire sans savoir qui était Voltaire, parce que je sortais d'un collège religieux pendant la guerre, où on m'avait mis parce que, soi-disant, on y mangeait bien. Et la première semaine, je vais au théâtre, j'étais déjà très attiré, je vais voir le Roi Lear avec et mis en scène par Charles Dullin, date historique, et j'arrive le lendemain et on m'a dit qu'est-ce que tu as fait hier soir, je suis allé voir le roi Léard avec Charles Dullin, et là vraiment l'éclat de rire a été général, mais ça ne s'oublie pas.
Vous avez souffert ?
Non, je ne sais pas tellement mon caractère.
On fait une petite pause et Jean-Claude Carrière sera de retour parmi nous.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Tadéhi.
Jean-Claude Carrière, je le disais au début de cette émission, vous avez 77 ans, c'est déjà une longue vie, 77 ans. Vous avez beaucoup de mémoire, je crois. En tout cas, vos amis disent que vous avez de la mémoire.
Oui, je crois, j'ai toujours une bonne mémoire, pas une mémoire maladive, comme ça peut exister quelquefois. Vous savez, les gens qui ne peuvent pas oublier, ça existe, les mnémonistes. Mais j'ai une assez bonne mémoire, oui.
Est-ce que vous vous sentez à l'aise dans cette époque, qui est également la vôtre ? Vous en avez connu d'autres, de précédentes, de différentes. Est-ce qu'elle vous plaît ? Est-ce que sa technologie, ses obsessions, ses modes conviennent ?
En matière de technologie, la réponse est oui, sans aucun doute. C'est-à-dire que je m'intéresse beaucoup à toutes les techniques nouvelles. J'ai créé la FEMIS, l'école de cinéma et de télévision. Il a bien fallu que je m'y intéresse, sinon c'eût été...
Je parlais pas seulement du cinéma,
absurde,
là. Je parlais à la fois d'Internet, des ordinateurs, des téléphones portables. Tout cela vous convient ?
Oui, ça ne me pose aucun problème. Oui, absolument, je travaille sur mon ordinateur, j'ai un iPhone et tout ça. Bon, c'est d'ailleurs relativement facile. Hein. Pourquoi se priver ? Vous savez, moi je viens d'une génération qui, quand j'allais travailler au Mexique avec Buñuel, emportait une petite machine à écrire portative où les dents se coinçaient. Pour trouver un ruban à Zitácuaro, c'était très difficile. Il y avait une gomme, du papier carbone, tout ça quand même. On ne peut pas regretter ça. Quand on a aujourd'hui les ordinateurs portables, vous voyez, c'est impossible. Je m'y adapte très bien. Ce à quoi je m'adapte moins bien, mais je le vois surtout pour les gens plus jeunes que moi, c'est à l'absence d'avenir qui me frappe autour de moi. Moi, j'ai grandi après la guerre, donc j'avais 13 ans à la fin de la guerre, et tout était à refaire en Europe. L'Europe était détruite, l'avenir ne pouvait être que meilleur.
Quoique, on a eu peur aussi de la Troisième Guerre mondiale.
Oui, on a perdu, on allait confiant vers la vie qui nous attendait. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Ensuite, on s'est stabilisé, on a parlé de conserver les acquis. Hein. Vous vous rappelez, c'était il y a 15 ans, 20 ans. Maintenant, on se demande si on ne va pas vers un avenir plus sombre, plus restreint, plus pauvre, plus dangereux même que celui que nous avons connu. Ce ne sera pas mon cas, cet avenir-là, je ne le verrai
c'est
pas.
C'est celui de votre petite fille, vous avez
de ma fille, de mes petits-enfants, oui, etc., de tous ceux, et pas seulement de mes enfants, de tous ceux qui nous suivent. Alors, je crois, étant un écologiste de la première heure, et vraiment un combattant depuis les années 60, un des quatre premiers fondateurs de Choisir, etc., je crois que l'avenir est là. Je crois que s'il y a un futur à trouver, il est dans un pas de côté que nous devons tous faire pendant une dizaine d'années, nous dire, bon, ça peut pas durer comme ça. Aujourd'hui, pour combler, réparer les méfaits de la croissance, on nous parle de relancer la croissance. Ce n'est pas possible, c'est absurde. Ce n'est que prendre un nouvel élan pour tomber encore plus bas. Donc, ne perdons rien de ce que nous avons. Mais pendant 10 ans, réfléchissons tous ensemble comment il serait possible de faire un pas de côté, tout simplement. En matière énergétique d'abord, en matière de démographie aussi, un élément dont on ne parle jamais. Comment vraiment mettre un frein à cet excès de population dont souffre la Terre et dont parlait déjà Nietzsche. Il disait la Terre a une maladie mortelle qui s'appelle l'espèce humaine. Donc c'est à ça que je m'intéresse. C'est ce qui m'inquiète en ce moment le plus dans le monde où nous vivons, beaucoup plus que je dirais les querelles entre peuples, que les querelles qui sont terribles, qui sont ce qui se passe à Gaza en ce moment, ce qui se passe entre Israël et les Palestiniens, et pour les Palestiniens surtout absolument affreux, quelque chose d'inadmissible, d'insupportable. Ces problèmes-là, on l'a bien vu en Irlande, peuvent un jour ou l'autre se régler. Les problèmes de réchauffement climatique et de désintégration de notre environnement, ce sera beaucoup plus difficile si nous n'y prenons pas garde tout de suite.
Je le disais tout à l'heure, Jean-Claude Carrière, vous êtes toujours plus intéressé à la religion qu'à la politique. Vous êtes toujours plus du côté du mysticisme. Est-ce que vous voyez dans cette espèce d'orientalisation du monde dont parlent certains, le fait que démographiquement, aujourd'hui, il y a plus d'habitants en Asie que...
Beaucoup plus,
60% de la planète habite en Asie. Forcément, ça a des conséquences, on commence à les sentir. Le matérialisme occidental tel qu'on l'a connu est-il en fin de vie et qu'on va aller de plus en plus vers quelque chose de plus mystique, vers plus de transcendance? Vous êtes vous-même, vous avez toujours été attiré par l'Orient.
Toujours été attiré par l'Orient, toujours été attiré par le mysticisme, surtout du point de vue de poétique.
Est-ce que le monde a quelque chose à gagner pour vous de...
Mais quand vous parlez de l'Orient comme de l'univers spiritualiste, disons, mystique, il faut se méfier, parce que l'Orient est entièrement gagné au matérialisme occidental. Les grandes puissances de l'Orient, la Chine et le Japon, sont totalement conquises, et peut-être même encore plus que nous, à la toute-puissance de l'argent, de la technique et du profit.
Même hors de Shanghai et Pékin, vous pensez ?
Ah oui, alors je le pense vraiment. Vous parliez tout à l'heure de l'exode rural. L'exode rural chinois en ce moment, qui touche à peu près 250 millions de Chinois qui, en 10 ans, vont quitter et ont déjà commencé à quitter les campagnes pour les villes. C'est le plus grand mouvement de population de l'histoire du monde. Il n'y en a jamais eu de comparable. Ces choses-là, nous les ignorons, ou nous affectons de les ignorer. Un jour ou l'autre, forcément, nous en serons frappés.
Jean-Claude Carrière, vous avez eu une très très belle bibliothèque, plus de 20 000 livres. Vous aviez dit que vous la vendriez avant...
J'en ai vendu une partie.
Avant vos 70 ans, et vous l'avez fait donc.
J'en ai vendu une première partie.
Pourquoi vouliez-vous vendre votre bibliothèque ?
Alors, d'abord parce que constituer une bibliothèque est un geste égoïste, c'est une jouissance personnelle, et que ce serait pour permettre à d'autres bibliophiles de profiter de mes livres. Mes héritiers ne seront pas forcément aux amateurs de livres comme je l'ai été. Donc c'est pour ça que j'ai préféré en vendre une partie et que peut-être je vais en vendre, nécessité obligeant aussi, parce qu'on a des besoins d'argent quelquefois, peut-être je vais en vendre une seconde partie. Cela dit, je sais pas...
Donc ça reste entre connaisseurs au fond.
Oui, amateurs.
Entre amateurs, voilà.
Entre amateurs, entre gens qui aiment, qui savent qu'il n'existe que un ou deux exemplaires de ce livre-là dans le monde et qu'en main privée, comme on dit, une fois que un livre est acheté par un musée ou par une bibliothèque publique, c'est foutu. On ne le reverra plus jamais. Il est enterré. C'est de la même façon pour les objets d'archéologie. Vous savez que le Louvre a 55 000 objets de l'Égypte ancienne et en expose 5 000. Donc, à grands frais, nous avons extrait de la terre égyptienne 50 000 objets pour les enfouir à jamais dans la terre française. Plus personne ne le verra. C'est un peu la même chose pour les livres dans les bibliothèques. Il y a des livres très rares et très beaux des incunables du 15e siècle, comme tous, que certaines bibliothèques possèdent en 6 ou 7 exemplaires et qui sont demandés une fois par an. Non, ça ne sert à rien, autant les remettre sur le marché.
Europe 1.
C'était Jean-Claude Carrière en 2009, c'est arrivé cette semaine est terminé. On a rendez-vous demain à 9h. Après le flash, vous allez retrouver Sébastien Guyot et les grandes voix d'Europe 1. Quel est le programme, Sébastien ?
Alors, Darmanin Le Pen, le débat qui sème le trouble au sein même de la majorité. Sur quel pied danse Emmanuel Macron ? La jambe droite, la jambe gauche, on appelle ça la danse du en même temps. Et puis, la polémique de la semaine, Trappe est-elle devenue une ville menacée par les salafistes et perdue pour la République ?
Bonne émission, Sébastien.
Merci.